Nous sommes le 24 mars 2025, il y a 10 ans jour pour jour, le vol 4U9525 de la Germanwings se crachait dans le massif des Trois Évêchés entre le Vernet et Prades-Haute-Bléone, l'acte suicidaire du copilote Andreas Lubitz qui conduira à la mort 149 personnes. Après une série de témoignages la semaine dernière de ceux qui ont vécu le drame dans les Alpes d'Haute-Provence, la parole est laissée aujourd'hui sur Alpe 1 aux familles des victimes, notamment Annette Blesse, elle a perdu sa fille dans ce crash. Nicolas Balic, grand reporter et auteur du livre « Retour au Vernet ».
Un jour, j'ai été contacté par Annette Blesse, qui est la maman d'Elena, 15 ans, qui fait partie des 149 victimes, et qui m'a demandé si elle pourrait traduire le livre afin qu'il soit publié en Allemagne. Voilà comment au Vernet est paru en Allemagne sous le titre « Rückkehr nach Le Vernet ». Et c'est donc Annette qui a rédigé cette préface où elle raconte ce qui s'est passé à partir du moment où le crash a eu lieu, puisque la famille attendait Elena, c'était son anniversaire, tout était prêt. Elle raconte les bouleversements et puis les semaines qui ont suivi, la Germanwings qui a fait venir les familles des victimes au Vernet, comment tout cela a été vécu à ce moment-là, au printemps 2015.
Voilà donc ce matin dans le 8:30, quelques passages de cette préface d'Annette Blesse, lue en allemand par Louise Dachy.
Dienstag, den 24. März,
mardi 24 mars 2015.
Après un séjour d'une semaine à Linares-del-Valles, Elena et son groupe de cours d'espagnol doivent prendre l'avion pour l'Allemagne dans la matinée.
Elena vient de passer une magnifique semaine, riche en découvertes dans sa famille d'accueil. Bien qu'elle ait pleinement profité de son séjour, elle se réjouit à l'idée de rentrer, car demain, c'est son 16e anniversaire. Encore 3 jours de cours, puis ce seront les vacances de Pâques. Comme nous l'avons déjà fait si souvent, nous irons en France, à Paris, cette fois pour 4 jours. D'Espagne, Elena nous a envoyé régulièrement des messages WhatsApp. Ils contenaient des photos et de petits comptes rendus sur les excursions et autres activités menées avec ses camarades et leurs correspondants espagnols. En prenant notre petit déjeuner ce matin-là, nous nous réjouissons en découvrant les nouveaux messages qu'Elena vient de nous envoyer. 5h42, nous recevons la photo d'un énorme œuf de Pâques joliment emballé avec une inscription en espagnol. En dessous, elle nous dit « Cadeau d'adieu de ma famille, j'espère que ça tiendra dans la valise. » 5h47,
«
Maman, notre avion va atterrir à 12:05. »
8h25,
« Si tout va bien, nous serons à la gare d'Alterne à 13h50. Je me réjouis à l'idée de vous revoir. » Mais tout n'allait pas aller bien. Il est 10h, dans ma classe de 4e, notre dernier cours de français avant les vacances commence. Avec mes élèves, nous regardons Les Choristes avec Gérard Jugnot dans le rôle principal. C'est l'un de mes films préférés, mais dans ce groupe agité dans lequel quelques garçons impertinents veulent toujours avoir l'air cool, j'ai quelques doutes sur leur réel intérêt pour ce film, déjà un peu vieux, dont l'action se situe à une autre époque. Je crains surtout que les passages avec la chorale ne soient pas bien accueillis et je redoute le brouhaha qui pourrait perturber la classe. Le film commence, mes pensées dérivent vers mes projets pour le temps d'après les cours. En sortant de classe à midi, je prendrai rapidement ma voiture pour aller faire les courses. Elena m'a dit qu'elle rêvait de fraises fraîches, elle en a mangé en Espagne et nous en a parlé avec envie. Mes cours se termineront suffisamment tôt pour que je puisse aller en acheter pour elle et arriver à l'heure à la gare d'Alterne. L'après-midi, autour d'un café accompagné d'un morceau de gâteau, Elena racontera tranquillement son voyage en Espagne, puis elle défera sa valise, pendant que nous parlerons de son 16e anniversaire. D'Espagne, elle m'a indiqué le nom de ses amis qui ne sont pas partis avec elle, mais qu'elle souhaite inviter à sa petite fête, Mira, Melina, Léonie et Jana. Les surprises et cadeaux qui attendent Elena sont déjà joliment emballés. Ils ne sont pas très nombreux, car elle a demandé de l'argent pour son permis de conduire qu'elle compte préparer cette année. Je me concentre de nouveau sur le film que nous regardons maintenant depuis 3 quarts d'heure. Monsieur Mathieu a commencé ses cours de chant et je regarde discrètement le visage de mes élèves attentifs à leur réaction. C'est avec surprise que je constate que ceux qui sont d'habitude si agités écoutent avec attention, presque fascinés par le chant des pensionnaires français. Dans la classe règne alors une atmosphère particulière, presque irréelle. Je me souviens
très précisément que je pensais que cela était dû à cette musique incroyablement belle qui, je sais encore que c'était exactement cet adjectif qui me vint à l'esprit, me semblait à cet instant céleste et que son effet ne pouvait pas s'exprimer autrement que par ce mot. En y repensant au moment où j'écris ces lignes, je sais que c'était précisément à l'instant où notre fille, avec 148 autres passagers innocents, était tuée par un copilote mentalement malade. Je sais aussi que c'est à ce moment très précis que le ciel s'est ouvert à moi, m'accordant un regard furtif sur le monde de l'au-delà dans lequel nous pourrons revoir auprès de Dieu tous ceux que nous avons tant aimés. Vendredi Saint, 4 avril 2015, jour 12 de notre cauchemar. Après le culte du Vendredi Saint, nous prenons la route de Düsseldorf. Nous sommes accueillis par les représentants de Lufthansa qui ont l'air touchés. L'avion n'a jamais été notre mode de déplacement préféré dans notre famille. Seule Elena se réjouissait à l'idée de prendre l'avion. L'idée de nous retrouver dans quelques instants dans un appareil identique à celui dans lequel elle a pris place avec ses camarades de classe et leurs professeurs avant d'être livrée à la folie d'un pilote dont nous ne pouvions pas connaître l'état de santé mentale domine nos pensées. Nous décollons de Düsseldorf en direction de Marseille, voyageant en classe affaires. Le personnel de bord est plein d'attention à notre égard, ce qui nous touche. Le pilote en personne vient même nous saluer. Apparemment, la Lufthansa s'efforce de regagner notre confiance. Nous sommes toujours sous le choc et percevons tout ce qui nous entoure au travers d'une sorte de voile. Tout nous semble faux. Il nous est en effet impossible d'admettre que notre fille et les autres passagers soient morts. Comment a-t-on pu permettre à un pilote psychopathe de se trouver aux commandes d'un appareil ? Durant tout le vol vers la France, cette pensée ainsi que beaucoup d'autres occupent notre esprit. La France, ma France toujours aimée, où nous avons passé de très nombreuses vacances, toutes merveilleuses avec Elena et son frère. Deux fois en Provence, non loin des lieux où sa vie s'est si brutalement achevée. La France, pays où j'ai passé une année d'études et où je suis ensuite si souvent revenue au cours de voyages scolaires avec mes élèves. Si cela a pu se passer, pourquoi justement en France ? Pourrons-nous un jour y revenir pour nos vacances ? Y retournerai-je pour un nouveau voyage scolaire dans le Sud ? Qu'est-ce qui nous y attend aujourd'hui ? De l'aéroport, nous empruntons un van, plus de 2 heures de route pendant lesquelles nous traversons des lieux qui nous sont au début familiers et qui nous rappellent des expériences vécues en famille en Provence. À Digne, nous nous arrêtons rapidement pour acheter des fleurs destinées à la stèle érigée au Vernet. Nous empruntons ensuite les lacets qui nous conduisent vers la montagne. Quand nous descendons du véhicule, le soleil brille, irradiant un ciel d'un bleu profond presque sans nuages. Dans le lointain, nous apercevons les sommets enneigés qu'en d'autres circonstances, nous aurions décrits comme incroyablement beaux. Mais là, leur aspect nous paraît irréel, car c'est dans ces montagnes que les élèves du groupe scolaire, leurs professeurs et les autres passagers sont morts. Notre première étape nous conduit à Seyne-les-Alpes. Nous sommes accueillis dans un gymnase provisoirement transformé en chapelle ardente. Des couronnes portant des rubans imprimés y sont alignées. Juste devant, des photos et un registre de condoléances portent entre autres les signatures d'Angela Merkel et Anne-Laure Kraft. Plusieurs personnes nous abordent prudemment et nous présentent leurs condoléances. Lorsqu'au bout d'une demi-heure nous quittons la salle, une dame sympathique s'avance vers nous. Elle aussi nous présente chaleureusement ses condoléances avant de nous remettre une feuille de papier roulée avec soin et tenue par un ruban. Elle nous dit qu'elle a été écrite et peinte par des élèves des villages de Seyne-les-Alpes et du Vernet. Il m'est difficile de décrire à quel point ce simple bout de papier nous émeut. Il contient la phrase « Nous pensons à vous, nous veillerons sur eux ». Juste en dessous, un cœur est dessiné. Nous garderons ce précieux document qui exprime en si peu de mots tant d'amour, de compassion et de consolation. Nous le conserverons toujours comme un trésor. Après un trajet d'une dizaine de minutes, nous arrivons au Vernet. Nous sommes à ce moment-là les seuls proches d'une victime présente sur place. Quand nous descendons du véhicule, nous sommes accueillis par le maire du village, celui de Prades, et un responsable de l'équipe de secours entouré d'autres personnes. Ils nous présentent tristement leurs condoléances et nous sentons à quel point eux aussi souffrent de ce qui s'est passé. Ils nous assurent qu'ils ressentent cet événement comme s'ils avaient eux-mêmes perdu leur enfant. Ils nous disent que dorénavant, leurs villages seront aussi les nôtres, que nous serons toujours les bienvenus et que nous pourrons loger chez les habitants. Bernard Bartolini, maire de Prades, nous accompagne ensuite jusqu'à la stèle. Il nous montre la crête derrière laquelle l'avion s'est écrasé. En déposant nos fleurs, nous n'arrivons pas à réaliser que notre fille a disparu. La montagne est trop loin et sa beauté nous paraît incompatible avec l'effroyable drame qui s'y est déroulé. Cela confirme notre sentiment dominant, il s'agit d'une terrible erreur. À cet instant, nous n'arrivons toujours pas à comprendre ce qui s'est passé, nous rendre dans le vallon au-dessus duquel le crash s'est produit et ce que nous y verrions, aussi épouvantable que cela puisse être, pourrait peut-être nous aider un peu mieux à concevoir l'inconcevable. Nous n'avons alors en tête comme image que celle diffusée depuis 10 jours par les médias. Mercredi 10 juin 2015, 12 semaines ont passé. Les dépouilles des enfants et des deux professeurs ont été rapatriées par avion de Marseille à Düsseldorf, puis transférées à Alterne. Pour cette dernière étape, un long convoi de voitures blanches a emprunté les voies autoroutières fermées à la circulation. Plusieurs centaines de personnes sont alignées le long des rues, tenant à la main des bougies et des roses blanches. Beaucoup d'entre elles pleurent, d'autres les mains jointes se recueillent dans la prière. Les enfants sont enfin rentrés à la maison. L'enterrement de notre fille a lieu 3 jours plus tard. Sur le chemin qui nous mène de l'église au cimetière, une pluie fine se met à tomber comme si le ciel pleurait avec nous. Devant la tombe, le soleil réapparaît et se met à briller comme s'il voulait sécher nos larmes. Cet enterrement d'Elena n'allait pas être le seul. Vendredi 24 juillet 2015, 4 mois après le crash, nous reprenons la route du Vernet. Après les obsèques des élèves et de leurs professeurs, la Lufthansa nous a informé qu'il y avait encore des dépouilles impossibles à identifier par des analyses ADN. Un autre choc pour tous les parents. Ces dépouilles seront, nous dit-on, enterrées dans une tombe commune dans le cimetière du Vernet. Cette information nous emplit d'effroi lorsque nous pensons que les dépouilles de 149 victimes innocentes seront enterrées dans une fosse commune avec celles de leurs meurtriers. C'est sous un terrible orage que nous descendons du bus. Nous sommes de nouveau accueillis très aimablement par des habitants du Vernet, de Prades et des environs. Ils nous attendent avec des parapluies, puis nous accompagnent sur un sol détrempé par l'averse vers une grande tente où des chaises nous attendent. Comme lors de notre première venue ici, nous nous sentons reçus avec beaucoup de chaleur et d'empathie. La cérémonie de commémoration est ponctuée d'éclairs et de coups de tonnerre. Et encore une fois, nous avons le sentiment que cela doit être un signe rappelant que ce qui s'est passé le 24 mars n'est pas seulement vu par nous, les hommes endeuillés, comme une faute affreuse et que tout cela n'aurait jamais dû se produire. Dimanche 24 janvier 2016, cela fait maintenant 6 semaines que le livre français de Nicolas Balic est posé sur la table de notre salle de séjour. Anneke, l'une des autres mères concernées, me l'avait donné au mois de décembre après une visite au Vernet. Elle m'avait demandé de le traduire pour elle. Je lui avais alors dit qu'une traduction demandait beaucoup de temps et que, prise par mon travail, il me serait difficile de m'atteler à cette tâche. Je lui proposais pourtant de le lire pour elle et de lui en faire un petit résumé. Entre-temps, nous avons passé pour la première fois Noël sans Elena, pour la première fois la Saint-Sylvestre sans Elena et pour la première fois mon anniversaire sans Elena. Les vacances de Noël sont passées, puis les cours ont repris. J'arrive enfin à prendre le livre en main. Il faut bien que je tienne la promesse faite à Anneke. Je me mets à le lire et je ne peux plus m'arrêter. Dès les premières pages, je trouve le récit si captivant et si révélateur que je prends la décision de le traduire intégralement. Pas seulement pour les familles et les amis des élèves et des professeurs d'alterne, mais aussi pour les proches germanophones de toutes les victimes et pour tous ceux qui, un an après le crash, y pensent encore. Je le fais également pour ceux qui, passant leurs vacances dans le sud de la France, viendront peut-être un jour au Vernet. Je le fais enfin pour les journalistes. Leur profession, lorsqu'il s'agit de traiter de tels événements, les place souvent au cœur d'un conflit entre leur réticence à évoquer certains faits et la volonté de leur rédaction, souvent en quête de scoop, parfois de sensationnalisme, d'informer le public avec le plus de détails possible, avec les dérives que cela peut parfois entraîner. Je fais des recherches sur Internet pour trouver l'adresse de l'auteur et lui écris une lettre à laquelle il répond très gentiment quelques jours plus tard. Il me confie la traduction de son reportage, livre des plus émouvants, qui permet d'avoir un point de vue différent sur ce qui s'est passé le 24 mars 2015 et dans les semaines qui ont suivi et qui a bouleversé nos vies.
Annette Bless, en février 2016.